Si vous êtes fatigué de crier sur vos enfants, si vous avez l'impression de ne pas être la mère ou le père que vous avez toujours rêvé d'être, si vous rêvez de relations familiales plus apaisées, plus sereines, si vous cherchez l'équilibre entre fermeté et bienveillance, sans basculer ni dans l'autoritarisme ni dans le laxisme, alors j'ai quelque chose à vous proposer. Les jeudis soirs, du 16 mai au 27 juin, j'organise un atelier de parents en ligne, en tout petit groupe. Durant 7 semaines consécutives, je partagerai avec vous tous les outils de la discipline positive qui m'ont moi-même aidé à la fois à dépasser mon tempérament colérique et aussi à établir des relations plus saines et apaisées avec mes enfants. Nous ferons des jeux de rôle pour tester ces outils et voir ce qui vous convient. Nous réfléchirons ensemble pour trouver des solutions à vos problèmes parentaux et nous nous encouragerons mutuellement tout au long de ce parcours. Tout se passe sur Zoom. Vous pouvez donc participer à l'atelier tranquillement depuis chez vous sans payer une babysitter. C'est parfait pour les parents solos qui n'ont pas forcément un relais facile à la maison. Et pour encourager les couples à participer à deux, eh bien j'offre l'inscription à l'atelier aux deuxièmes parents. Alors rejoignez-nous vite, les places sont limitées et les inscriptions ne seront possibles que jusqu'au dimanche 5 mai pour nous laisser le temps de vous envoyer votre colis de bienvenue avec tout ce dont vous aurez besoin pour l'atelier. Moi j'espère vous retrouver très vite dans un groupe aussi extraordinaire que ceux des dizaines et des dizaines de parents qui ont déjà participé à des ateliers comme celui-ci et qui en sont tous sortis tellement plus sereins. C'est simple, on a un taux de satisfaction de 100%. Toutes les infos sont sur la page d'inscription de l'atelier que vous retrouverez dans les notes de votre épisode. Alors bonne écoute et à très bientôt. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris 7, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. C'est l'été et j'avais envie de marquer le coup avec un sujet un petit peu plus léger aujourd'hui et je voudrais partager mon top 6 des dessins animés Disney. Peut-être que comme nous, pendant l'été, vous faites davantage de soirées films en famille et que bah, quand on a des enfants qui sont encore un peu jeunes, c'est l'occasion de partager des dessins animés et en particulier les fameux Disney de notre enfance. Mes premières sorties au cinéma, c'était pour aller voir les sorties Disney de l'année. Je suis allée voir Aladdin, Le Roi Lion, Le Bossu de Notre-Dame. Alors, je me date peut-être un petit peu là, mais il y a de fortes chances que vous aussi, vous ayez connu ça, l'anticipation de la sortie du nouveau Disney. Et si je veux partager avec vous mon top 6 aujourd'hui, ça n'est pas du tout pour vous faire des recommandations et vous conseiller de regarder tel ou tel dessin animé spécifiquement avec vos enfants. Vous allez me dire, c'est bizarre, c'est quand même le but d'un top 6. Non, là, ce que je voudrais vraiment faire, c'est surtout ouvrir la conversation. Parce que ces choix que je vais partager avec vous sont extrêmement personnels, ça vous allez le voir. Et je voudrais surtout vous aider à identifier, dans ces dessins animés que vous aimez, ce que vous aimez dedans et ce que vous avez envie, en fait, de partager avec vos enfants. Donc ça va rester une conversation très légère et je me dis que c'est peut-être l'occasion pour vous aussi d'aborder le sujet autour de l'apéro, du barbecue avec vos amis ou votre famille, de vous dire, et vous, c'est quoi vos dessins animés préférés de votre enfance et qu'est-ce que vous avez absolument envie de partager avec vos enfants aujourd'hui? Alors, je vais commencer sans... Il n'y a aucun ordre. Quand je dis que c'est mon top 6, en fait, vous allez voir que ça ne va pas de 6 à 1. Je les place un peu sur la même place du podium, tout simplement pour des raisons différentes. Le premier que je vais mentionner ne va peut-être pas faire l'unanimité. Je pense qu'il fera l'unanimité chez les petites filles, mais pas chez les parents. C'est La Reine des Neiges. Personnellement, j'ai énormément aimé La Reine des Neiges. Et en particulier pour ses chansons. Et je pense que c'est l'un des critères que vraiment on peut apprécier dans les dessins animés de Disney. C'est la qualité des chansons. Et là, que ce soit les paroles en français ou en anglais, la qualité des musiques, le côté entraînant, la variété des chansons, il y en a qui sont très profondes et d'autres qui sont beaucoup plus légères. Je les trouve vraiment formidables dans La Reine des Neiges. Rassurez-vous, je vais pas vous chanter Libérée, délivrée, hein, mais ça a été un tube à la maison pendant longtemps, avec notre petite fille qui nous disait Libérée, délivrée, elle n'arrivait pas à dire le délivrée. J'imagine que vous l'avez entendu en boucle et que vous êtes peut-être lassée, mais ça reste un grand succès chez nous. Et ça, il y a plusieurs dessins animés Disney que j'apprécie pour leurs chansons. C'est quand même un de leurs gros, gros points forts. Je pense au Bossu de Notre-Dame, où la voix féminine était d'Esmeralda était sublime. Ou à Aladdin, qui était vraiment dans un style très différent, extraordinaire aussi pour la beauté des chansons. Donc, en premier, La Reine des Neiges pour ses chansons. Enfin, en premier, à égalité avec les autres. Autre membre du top 6 de mes Disney préférés, La Belle et la Bête. Et La Belle et la Bête, c'est peut-être le choix le plus personnel de ce top 6. Parce que si j'aime La Belle et la Bête, c'est parce que je m'identifie énormément au personnage de Belle. Alors non pas parce que je me sentirais super belle, c'est pas du tout l'idée, mais parce qu'elle représente un personnage un peu intello, qui se fait un peu mettre à l'écart du village. Et ça correspond à ce que j'ai vécu quand j'étais petite fille, à l'époque où je regardais ce dessin animé. Donc je peux vous dire que je l'ai regardé en boucle et que je m'identifiais totalement en personnage. Et vous avez sans doute vous aussi des dessins animés comme ça, qui sont tombés aussi au bon moment, à la bonne époque pour vous et qui correspondaient parfaitement à ce que vous viviez à tel ou tel moment. C'est pareil pour La Reine des Neiges. Il y a des passages dans lesquels je m'identifie beaucoup. Lorsque Elsa, la Reine des Neiges, part et crée son château de glace, elle a un côté un peu rebelle de crise d'adolescence. Et c'est un passage auquel je m'identifie aussi, alors que je ne m'identifie pas du tout à toute l'histoire des deux sœurs, Anna et Elsa, dans La Reine des Neiges. Et j'ai pourtant une amie qui aime énormément ce dessin animé, mais justement parce qu'elle s'y retrouve avec sa sœur. Et donc, vous voyez qu'on peut aimer des films pour des raisons différentes, et qu'évidemment, on peut aussi aimer différents dessins animés, parce qu'on y retrouve différents aspects de notre vie personnelle, de notre histoire personnelle. Je m'identifie aussi beaucoup au personnage de la petite sirène qui rêvait de partir là-bas. Vous savez, la chanson « Partir là-bas », justement dans cette même période où c'était un peu difficile à l'école, etc. Et en fait, c'est assez proche de la même chanson, enfin de la chanson qui parle un peu du même sujet dans « La Belle et la Bête », qui est au tout début de « La Belle et la Bête ». Où elle traverse le village, où elle sent qu'elle est mise à part, et puis elle part ensuite dans un champ, et elle rêve d'autre chose. Où elle dit « Je veux vivre autre chose que cette vie. » Vous savez, « Je veux vivre autre chose que cette vie. » Et c'est exactement la même thématique que dans La Petite Sirène. Donc, vous voyez, même si les thèmes sont totalement différents, avec d'un côté la vie sous l'océan, une jeune fille qui veut avoir des jambes, et de l'autre côté, une intello qui se fait emprisonner par une bête qu'elle finit par apprécier. Bon. Ça m'a parlé. Et il y a sûrement comme ça des dessins animés qui vous ont parlé. Le danger, quand on les partage avec nos propres enfants, c'est que peut-être que eux ne se reconnaîtront pas du tout dans ce dessin animé. Autant ils peuvent partager les chansons avec nous, c'est quelque chose qu'ils peuvent apprécier, autant ce qui nous a touchés au niveau de notre histoire personnelle nous est vraiment propre. Et du coup, il y a de fortes chances que nos enfants, eux, n'accrochent pas à ces mêmes dessins animés et en revanche, se retrouvent au niveau de leur histoire personnelle dans d'autres dessins animés. Donc ça vaut le coup de le savoir pour ne pas être déçu si l'enthousiasme parmi les autres membres de la famille n'est pas vraiment au rendez-vous. Troisième lieu, bon, pas en troisième place, hein, mais à égalité toujours avec les autres, il y a les dessins animés dans lesquels on apprend quelque chose qui nous donne une leçon. Et parmi ces dessins animés que j'aime beaucoup, il y a Vice-Versa. Vice-Versa, si vous voulez expliquer à vos enfants le fonctionnement du cerveau et des émotions, c'est un film extraordinaire. Donc, ça raconte l'histoire d'une petite fille, et en fait on passe plus de temps à l'intérieur de son cerveau qu'à l'extérieur, à voir sa vie. C'est une petite fille qui était très heureuse avec sa famille et qui était passionnée de hockey et qui déménage. Et ce déménagement, ça suscite plein d'émotions chez elle. De la peur, de la colère, de la tristesse. Et dans le cerveau, il y a les émotions qui sont personnifiées. Et on a le personnage de joie qui domine un petit peu, qui domine les premières années de la vie de cette petite fille, et qui se sent un peu perdue parce qu'elle voit que... elle a l'impression que la tristesse vient contaminer les nouveaux souvenirs de cette petite fille, et elle voudrait mettre tristesse dans un coin et l'empêcher d'agir et de faire des bêtises, suivant son point de vue à elle, de joie. Et joie et tristesse suite à un petit accident technique, sont exilées du cerveau central. Et puis, elle parcourt tout un tas de parties du cerveau. Il y a la mémoire à long terme, il y a la pensée abstraite, il y a l'imagination. Et puis, des souvenirs fondamentaux qui créent des îles de la personnalité dans le cerveau. Enfin, c'est absolument fascinant et c'est très juste au niveau des neurosciences, du fonctionnement du cerveau humain. Donc c'est un dessin animé que je trouve fascinant. Il y en a deux autres qui, je trouve, donnent des leçons extraordinaires. Il y en a un, c'est Coco, qui parle du jour des morts mexicain, avec toutes ces traditions-là. Et ça tourne beaucoup autour de la musique et de cette fête des morts. Et je trouve que ce qui est magnifique, c'est la vision de la mort qui est proposée à travers ce film, parce que c'est quelque chose de très joyeux. Tous les ans, suivant cette tradition du jour des morts, on fait un autel avec des offrandes sur lesquelles on pose la photo de chacun des membres de la famille qui est décédé. Et dans le film, on voit les personnages qui sont morts et qui ne peuvent revenir sur la terre des vivants que si on a mis leur photo sur l'autel. Et à ce moment-là, ils viennent partager une soirée, une nuit, une journée et une nuit de fête avec les membres de leur famille qui se souviennent d'eux. Et c'est un film qui parle de la mort et qui pourtant dégage une joie de vivre extraordinaire. Les musiques sont belles, les dessins sont magnifiques, c'est coloré, c'est dansant. Voilà, c'est un très beau film à regarder pour aborder la mort avec ses enfants. Et le troisième film dont je vous parlais, c'est Encanto, la fantastique famille Madrigal. Qui parle davantage des talents de chacun et du fait que chacun dans une famille a sa place et a son rôle à jouer dans la famille, a quelque chose à apporter à la famille. Donc c'est là aussi une très belle leçon. Donc il y a des films comme ça où on apprend des choses. Personne n'a envie d'avoir un enfant roi. Et personne n'a envie non plus d'avoir un enfant complètement éteint et soumis parce qu'on l'aurait dressé à coups de claques ou de fessées. La grande difficulté de notre tâche de parent, c'est d'équilibrer la fermeté et la bienveillance sans jamais basculer ni dans l'autoritarisme ni dans le laxisme. Eh bien, c'est justement pour vous aider à retrouver cet équilibre entre fermeté et bienveillance que je vous invite aujourd'hui à participer à notre atelier de parents en ligne qui se déroulera sur Zoom du 16 mai au 27 juin prochain. Durant ces 7 séances, nous allons apprendre à poser un cadre dans toute la famille. Nous allons travailler sur ces notions de fermeté et de bienveillance, sur ce qui nous amène à plus de fermeté, ce qui nous amène à plus de bienveillance, pour essayer d'être les deux à la fois, et non pas de basculer entre le matin et l'après-midi, où on va être ferme le matin et beaucoup trop bienveillant l'après-midi. Et on va aussi apprendre à nous ressourcer. Dans la troisième séance, on va travailler sur l'ordre de naissance et son impact sur les enfants. Et nous allons aussi étudier ce que sont les comportements inappropriés chez les enfants et comment on peut y répondre. Dans la quatrième session, nous allons faire tout un bloc pour passer de la punition à la recherche de solutions. C'est le bloc central de tout cet atelier et croyez-moi, c'est là qu'il y a les prises de conscience les plus phénoménales. Ensuite, on abordera la gestion des conflits, en particulier dans la fratrie, mais aussi évidemment entre enfants et adultes. Ensuite, on apprendra à mieux nous connaître grâce à un travail qu'on appelle les cartes dominantes. Et puis, on apprendra à trouver des solutions tous ensemble en famille. Et enfin, durant la dernière séance, nous verrons comment passer un accord et nous y tenir et faire en sorte que tout le monde dans la famille s'y tienne. Voilà, si ce programme vous tente, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'atelier de parents. Pour cela, c'est très simple. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode et vous avez tout simplement jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire. Il nous faut un petit peu de temps pour préparer l'atelier, vous envoyer votre colis de bienvenue dans lequel vous retrouverez le livre La discipline positive et un porte-vue avec tous les documents qui pourront vous être utiles, toutes les ressources dont nous aurons besoin pendant l'atelier. Je vous laisse écouter la fin de votre épisode et n'hésitez pas donc à consulter le lien d'inscription qui se trouve dans les notes de votre podcast. On apprend des choses au niveau des relations des compétences socio-émotionnelles et en même temps, là aussi, comme pour les dessins animés qui résonnent avec votre histoire personnelle, je voudrais vous mettre en garde parce que ces dessins animés-là, je n'ai pas vérifié au box-office s'ils ont été plus ou moins populaires que les autres, mais j'ai le sentiment qu'en général, ils plaisent moins aux enfants parce qu'il y a un côté un peu didactique. Dans Vice Versa, il n'y a pas vraiment d'histoire pleine d'aventures. Les aventures ne sont pas extraordinaires. Les chansons sont pas... Je ne crois même pas qu'il y ait de chansons, à peine. Il y a une micro-chanson à un moment, mais il n'y a pas de chansons. Il n'y a pas de petits compagnons. Vous savez, souvent dans les dessins animés Disney, il y a un petit compagnon rigolo, un petit animal. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Un petit peu, mais avec Boing Boing, mais pas tant que ça. Et du coup, les enfants ont moins de choses auxquelles ils peuvent s'accrocher. En général, ce qui fait le succès des dessins animés Disney, c'est beaucoup les chansons et l'humour. Et là, il y en a moins. Donc même s'il y a plus à y apprendre, il est possible que ça plaise moins aux enfants. Et je pense que c'est une bonne chose à savoir. Quand on veut partager ce genre de films comme Vice Versa, Coco ou Encanto, se dire que peut-être il n'y aura pas un enthousiasme extraordinaire. Peut-être que si, mais peut-être que non. Et que c'est pas forcément très grave, parce que là, le but qu'on peut avoir en partageant ces dessins animés avec nos enfants, c'est de leur expliquer des choses, de leur présenter des choses, qu'ils apprennent de nouvelles choses et de nouvelles compétences. Autre dessin animé avec un autre aspect que j'aime beaucoup, c'est Aladdin. Et dans Aladdin, ce que j'apprécie, c'est l'humour. Et ce qui est génial avec Aladdin, c'est que vous avez un humour qu'on comprend à différents stades. C'est-à-dire qu'il y a des blagues que je comprenais quand j'étais petite. Et comme dans Astérix, il y a d'autres blagues que je n'ai comprises que quand j'étais beaucoup plus adulte et que j'avais plus de culture, parce qu'il y a des personnages dedans qui reprennent des personnages de la culture populaire, de la télévision, alors beaucoup américaine. Il y a des allusions comme ça. Le génie se transforme en personnage de la culture populaire, de la télé, de l'époque où c'est sorti, je crois que c'était dans les années 90. Mais il y a beaucoup d'humour, et de l'humour, comme je disais, qu'on apprécie aussi bien enfant que beaucoup plus tard adulte. Il y a d'autres films, un peu d'autres dessins animés avec ce côté-là, comme Cars. Cars, c'est bourré de petites touches d'humour que les plus jeunes ne perçoivent pas. Les plus jeunes perçoivent les voitures qui parlent, et puis l'histoire générale. Mais par exemple, à un moment, on voit les voitures qui se rendent au circuit de course, les voitures qui sont spectatrices, et vous avez les toilettes. Et on a les voitures masculines qui vont aux toilettes des hommes et qui rentrent et sortent, ça va très vite. Et vous avez les toilettes des filles, avec toutes les voitures féminines qui vont aux toilettes des femmes, avec une longue file d'attente. Et ça, c'est quelque chose que les tout-petits, à 4-5 ans, ne voit pas, ne remarque même pas. Mais pour les adultes, c'est rigolo, parce qu'on se dit effectivement, devant les toilettes des femmes, il y a souvent beaucoup, beaucoup plus d'attentes que devant les toilettes des hommes. Donc, il y a plein de petites traits d'humour comme ça que j'apprécie beaucoup. Donc, je récapitule un peu depuis le début. Dans mon top 6, il y avait La Reine des Neiges pour ses chansons. La Belle et la Bête, parce que ça résonnait avec mon histoire personnelle. Vice Versa, parce qu'on y apprend des choses fascinantes. Aladdin, pour son humour. Cinquième dessin animé, Mulan. Et dans Mulan, ce que j'aime, ce sont les valeurs qu'on y transmet. Mulan, c'est un film magnifique qui parle d'une jeune femme en Chine, à une époque médiévale, Et son père, qui, alors elle est un peu rebelle, elle n'arrive pas à se marier parce qu'elle est trop farfelue, trop tête en l'air, pas hyper féminine. Et un jour, son père est appelé à l'armée. Sauf qu'il est très âgé et elle se rend compte que s'il part à l'armée pour la guerre, il va mourir. Et donc, elle décide de se déguiser en homme et de partir à sa place. Et c'est toute cette histoire où elle découvre son propre potentiel, elle s'améliore, elle persévère au début dans le camp d'entraînement avant de partir à la guerre. Elle est lamentable. Elle est la plus mauvaise de tous. Mais elle persévère, et elle persévère, et elle persévère. Et à un moment donné, à force de persévérance, elle dépasse tout le monde. Et elle entraîne les autres à sa suite. Donc c'est un film qui parle de dévouement, puisqu'elle se sacrifie à la place de son père, d'amour filial. C'est un film qui parle de persévérance, qui parle de courage. Et à la fin du film, désolé pour le spoiler, le général, qui est un très jeune général, revient dans la maison de Mulan et vient demander sa main. Et c'est un film qui est assez extraordinaire parce que pour une fois, c'est pas une histoire de prince et de princesse. C'est un général qui est impressionné par une jeune femme, mais par son courage et par sa persévérance. Il n'est pas impressionné par sa beauté. Il n'est pas, pourtant elle est belle, il n'est pas impressionné par des aspects très, très superficiels et extérieurs. Il est impressionné par ses qualités intérieures. Donc je trouve que c'est quelque chose de très très beau. C'est un petit peu pareil aussi dans La Reine des Neiges. C'est un autre film où on apprend des choses au niveau des valeurs. Parce que pour la première fois, une des premières fois, je pense, dans l'histoire de Disney, il y a une histoire d'amour qui commence bien avec un prince qui se déclare et qui demande Anna, la princesse Anna, en mariage. Sauf que ce prince, c'est un... Je vais essayer de rester poli pour ce podcast. Je vais le dire comme ça. C'est un empaffé. C'est un fourbe qui ne lui demande sa main que pour devenir prince et roi un jour, parce que lui-même est un petit dernier de famille et sait qu'il ne deviendra jamais roi. Donc il veut la main de cette princesse pour devenir roi un jour. Et pour profiter des richesses de son pays à elle. Et la princesse Anna finit par se rendre compte de l'hypocrisie de ce prince et par tomber amoureuse d'un autre jeune homme qui, lui, n'est pas riche, mais qui a des qualités intérieures. Il est un petit peu ridicule parfois, il est drôle, mais il a un cœur énorme, il est très ouvert, il aime tout le monde. C'est quelqu'un qui a des qualités de cœur vraiment profondes. Donc là aussi, je trouve que dans La Reine des Neiges, il y a de belles valeurs qui sont transmises. Un autre dessin animé que je trouve encore de belles valeurs, c'est Rebelle, qui parle là aussi un peu d'émancipation féminine. Rebelle parle d'une écossaise, une princesse écossaise qui refuse de se marier parce qu'elle veut garder son indépendance. Elle a une chevelure rousse flamboyante qui est gigantesque, indomptable. Et voilà, elle veut garder son indépendance et le dessin animé repose sur l'attachement familial et le courage, là encore. Donc ce sont des valeurs qui, pour moi, personnellement, sont importantes. Vous en aurez peut-être d'autres qui sont plus importantes pour vous. Mais ce sont des choses qui m'ont parlé dans ces dessins animés. Et on peut, là encore, avoir envie de partager des dessins animés Disney avec ses enfants pour leur transmettre de belles valeurs. Et à l'inverse, ça peut être aussi une façon de faire le tri entre certains dessins animés en se disant que non, là, ce sont des valeurs que je n'ai pas du tout envie de transmettre à mes enfants. On parle souvent récemment de Blanche-Neige, qui est quand même un film un peu particulier, où Blanche-Neige chante, le prince arrive derrière elle alors qu'elle se regarde dans le puits, et il poursuit sa chanson, et oh, tout d'un coup, ils sont amoureux. Et puis, suite au sortilège de la méchante sorcière, elle est endormie et le prince l'embrasse, la réveille et elle part sur le cheval du prince. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Il y a un côté un peu absurde. Ça transmet une image de la femme qui est vraiment... c'est propre à l'époque. Hein, je crois que ça date des années 40 ou 50. Mais c'est pas forcément les valeurs que j'aimerais transmettre à nos filles en particulier, même si Blanche-Neige a d'autres, le dessin animé de Blanche-Neige a d'autres qualités qu'on peut apprécier. Ça mérite peut-être un petit débriefing après, de se dire, vous savez, l'amour, ça marche pas comme ça. On tombe pas amoureuse en 3 secondes d'un prince qui nous emmène ensuite sur son beau cheval blanc. On parle aussi beaucoup de La Belle et la Bête et du syndrome de Stockholm en se disant, mais après tout, La Belle, elle est enfermée par une bête, elle finit par en tomber amoureuse, mais c'est seulement le syndrome de Stockholm. Certains y voient une histoire un peu glauque. Moi, comme je vous l'ai dit, ça résonne avec mon histoire personnelle pour d'autres raisons. Donc, c'est un film que je continue à apprécier et à partager avec mes enfants. Mais tout ça pour vous dire que on peut faire un choix conscient de se dire, je vais leur montrer tel ou tel film, ça correspond à mes valeurs ou pas du tout. Et puis, dernier dessin animé de mon top 6, n'est pas dernier des 6, hein. C'est même le premier en ce qui concerne les dessins. C'est La Belle au Bois Dormant. La Belle au Bois Dormant, pour moi, a un style de dessin inimitable. L'équipe de dessinateurs a consacré énormément de temps à ces dessins. Ils sont dans un style très particulier, un peu Art Nouveau, qui est un style artistique que j'adore. Chaque dessin est absolument sublime. D'ailleurs, c'est un film qui a été un échec commercial. Non pas parce qu'il n'aurait pas eu de succès du tout, mais parce qu'il a coûté extrêmement cher à produire à cause de la qualité et du temps passé à réaliser ses dessins. Et que malheureusement, il a coûté très cher à produire, mais n'a pas eu non plus un succès extraordinaire par rapport à d'autres films qui coûtaient beaucoup moins cher. Donc il a... Bon, je pense qu'aujourd'hui, il est quand même largement rentabilisé, mais à l'époque, ça a été un échec financier. Et là encore, c'est très subjectif, ce qu'on apprécie dans les dessins d'un dessin animé Disney. Par exemple, en ce qui me concerne, j'aime énormément les dessins du dessin animé Hercule, qui s'inspire des poteries grecques. Mais je sais que mes parents, par exemple, et surtout ma mère, n'aimaient pas du tout la qualité de ces dessins. Elle trouvait ça hideux. Et puis, de mon côté, je n'aime pas du tout les dessins de Pocahontas. Ils ont un style qui est très particulier et qui venait après d'autres dessins animés où les visages, les dessins étaient peut-être plus lisses, plus ronds. Il y a un côté plus anguleux dans le dessin de Pocahontas et je n'ai pas aimé. Et c'est totalement subjectif. C'est comme si je vous disais, j'aime les œuvres d'art de Raphaël beaucoup plus que celles de Rubens. Bah voilà. C'est comme ça. Je peux vous dire ce que j'apprécie chez Raphaël. J'apprécie ses couleurs, j'apprécie la délicatesse des dessins. Chez Rubens, ce que je n'aime pas, c'est le côté un peu gras. Déjà, c'est une mode à cette époque-là, des personnages très gras, avec des bourrelets partout. Et, mais ça se retrouve dans l'écume des vagues. Il y a ce côté un peu débordant que je n'aime pas trop chez Rubens. Et je n'aime pas trop les couleurs de Rubens non plus. Voilà. Je peux vous dire ce que j'apprécie et ce que je n'apprécie pas chez ces différents peintres, mais vous n'allez pas me convaincre que Rubens est meilleur que Raphaël. Ça n'a rien à voir, c'est subjectif. Là, c'est pareil, j'aime beaucoup La Belle au Bois Dormant ou Hercule, je n'aime pas trop Pocahontas pour leur dessin, et vous aurez peut-être une opinion tout à fait différente. Alors, je vous repartage un petit peu mon top 6 pour vous rappeler les différents aspects que vous pouvez aimer ou pas dans les dessins animés Disney, est-ce que vous avez ou pas envie de partager avec vos enfants? Il peut y avoir les chansons, comme pour moi dans La Reine des Neiges. Peut-être que ça résonne avec votre histoire personnelle, comme dans La Belle et la Bête pour moi. Peut-être que vous avez envie d'apprendre des choses à vos enfants, comme dans Vice Versa. Peut-être que c'est l'humour qui vous plaît par-dessus tout, comme dans Aladdin. Peut-être que vous avez envie de transmettre des valeurs avec Mulan, ou un autre film qui correspond plus à vos valeurs à vous. Ou peut-être que vous avez envie de partager des dessins que vous trouvez sublimes. Comme je trouve sublimes les dessins de La Belle au Bois Dormant. Voilà pour aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on s'éloigne trop de la pédagogie ou de la parentalité en parlant comme ça des dessins animés Disney. Comme je vous le disais, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus léger pour nos conversations d'été et... peut-être que c'est quelque chose que vous aurez envie de partager avec vos amis, avec votre famille. N'hésitez pas. Un petit WhatsApp avec le lien du podcast. Ben, c'est l'occasion peut-être de faire connaître à d'autres parents ou grands-parents le podcast Montessori à la maison, avec les Montessori 7. Et au passage, évidemment, ça nous permet de nous faire connaître, et donc ça vous permet à vous de soutenir ce podcast si vous l'appréciez. Je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite de très belles vacances si vous en avez. En tout cas, un très bel été. Votre petite sourisette, Anne-Laure. N'oubliez pas que vous n'avez que jusqu'au dimanche 5 mai pour vous inscrire à notre prochain atelier de parents en discipline positive sur Zoom. Et petit rappel, l'inscription du deuxième parent est offerte. Donc si vous voulez prendre du temps en couple, à la fois pour vous et pour votre famille, eh bien c'est l'occasion ou jamais. Vous pourrez suivre tous les ateliers de chez vous sans même avoir à prendre une babysitter. Mais bien entendu, si vous êtes parent solo, vous êtes tout autant le bienvenu. J'ai donc hâte de vous retrouver les jeudis soirs de 20h30 à 22h30 entre le 16 mai et le 27 juin pour 7 séances de 2 heures en discipline positive. Toutes les informations sont disponibles sur le lien d'inscription que vous retrouverez dans les notes de votre épisode. À très bientôt !